Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Par les temps qui courent, rencontre tous les soirs des artistes pendant une heure. On est ensemble jusqu'au 1er janvier inclus avec moi. Et vous retrouverez Marie Richeux le 2 janvier. Ce soir, rencontre pendant une heure avec Nathalie Quintane.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps, qui courent, Romain Lebec de Lièvre, Nathalie Quintane.
Toutes les phrases et fragments que vous allez lire ont été écrits par d'autres que l'auteur dont vous lisez le nom en couverture de ce livre, qui les a juste choisis, coupés et disposés. Les enfants vont bien est un livre de montage. Pourquoi ce choix ? Dans un précédent livre, Un œil en moins, j'avais déjà abordé la question des réfugiés, des migrants, comme on dit, mais son parti pris narratif me semblait, au moment même où je l'écrivais, insuffisant à rendre compte de la violence faite en France à ces hommes, ces femmes et ces enfants. C'est ainsi que s'ouvre un livre intitulé « Les enfants vont bien ». L'auteur dont on peut lire le nom en couverture, c'est vous, Nathalie Quintane. Vous y avez monté, comme au cinéma, des phrases qui ont été prononcées et écrites par diverses personnes ou institutions qui fabriquent le problème de l'asile et de l'hébergement des réfugiés en France. Ça donne un livre qui monte, qui fabrique et donne à voir les multiples opérations que mènent des langages face à une population et la situation violente qu'elle leur construit. Bonsoir Nathalie Quintane.
Bonsoir.
Les enfants vont bien, c'est le titre de votre dernier livre, il est publié aux éditions POL. Bienvenue, vous êtes en duplex d'Aix-en-Provence. Tout va bien ?
Tout va bien, oui, tout va bien.
Vous êtes notre première invitée après plusieurs semaines de silence suite à un mouvement social et on se demandait si ça vous évoquait quelque chose.
Ben, c'est la première fois que j'ai compris que le mouvement durerait. Parce qu'à chaque fois que je tournais le bouton, voilà, il y avait le plus souvent de la musique et je me suis dit que ce mouvement si long, si dur, était tout simplement le reflet de la situation globale, de la dureté de la situation globale, du fait qu'on a l'impression d'être au pied du mur avant peut-être l'une des dernières batailles. Et moi, j'avais le sentiment que Radio France, tous ceux qui ont fait grève, tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, mais c'est pas fini, je pense. Était totalement le reflet, était à la hauteur de tout ce qui se passait, des enjeux de tout ce qui se passe dans le pays en général. Donc voilà, merci pour les auditeurs, merci pour nous.
Je lisais la préface, un extrait, le tout début de la préface de votre livre « Les enfants vont bien » au début. Et ce qui m'a frappé, c'est que vous placez le dispositif directement de ce livre à vue. L'idée de faire une littérature qui dit ce qu'elle fait et qu'il n'y aura pas de truc pour le lecteur. Est-ce que vous l'avez pensé comme ça ?
Oui, en fait, c'est ce que vous avez lu tout à l'heure, c'est que j'avais un peu parlé des réfugiés dans un livre précédent qui s'appelle « Un œil en moins », qui était beaucoup plus narratif. Et au moment même où j'écrivais le passage, qui est un petit passage vers la fin du livre, je me disais que c'était encore trop enrobé d'une certaine manière dans la narration, dans l'histoire, avec le petit H et pas la grande H, comme disait Pérec. Et bon, ça a fait son chemin pas très longtemps, quelques mois, et puis je me suis dit non, il faut vraiment que j'essaye de trouver une forme qui soit d'une part à la hauteur de la violence de la situation de ces réfugiés, et puis que ça soit aussi en effet frontalement lisible pour le lecteur, que lui aussi soit en quelque sorte confronté à quelque chose de mis à nu, oui, voilà.
C'était l'idée de faire un livre clair, d'une certaine façon, si une telle chose existe.
Alors Claire, je sais pas, peut-être en partie un livre blanc, puisque il y a beaucoup de blanc sur ces pages-là et que c'est vraiment le quelque chose que j'ai pas du tout pratiqué avant. Au contraire, je viens d'un moment, hein, j'allais dire d'une génération, c'est plutôt la saturation sur la page qui valait. Et là, le fait que ça tranche comme ça et que pour une fois et pour cette seule fois peut-être, je sais pas, je m'autorise d'une certaine manière à vider la page pour mieux que ça claque en fait. Hein. Bon, c'est un peu ça l'idée. Vraiment, cette idée-là, elle devait impliquer et imprégner la lecture autant que le système d'agencement, les choix que j'ai faits dont on va sans doute parler par ailleurs, quoi. C'est vraiment l'idée de quelque chose d'assez violent au fond, quoi, d'assez éclairant mais au sens lumière blanche,
quelque chose, ouais, qui éblouisse aussi.
Ouais, quelque chose qui arrête, quoi, parce que c'est vrai que la plupart du temps, quand on lit, quel que soit le genre du livre d'ailleurs, hein, aussi bien des essais que des romans, que même de la poésie, on a plutôt affaire à une page assez pleine. Et là, il fallait que ça... Enfin, pour moi, hein, j'avais envie que ce soit vraiment fortement contrasté, pour qu'il y ait une surprise déjà de la part du... Quand on ouvre le livre et tout, qu'on se dise, même qu'on soit déstabilisé au fond ou un peu dubitatif, hein, sans doute qu'il y a une partie des gens qui ouvriront ce livre ou qui le liront ou qui l'achèteront ou pas, qui se diront mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une première barrière, si vous voulez, ou un premier appel aussi, une première alerte. Hein. C'est un livre qui fonctionne aussi visuellement comme une sorte d'alerte, et que passer cette alerte-là, si on l'accepte, on puisse... voir ce qui se joue dans ce type de phrases très disséminées, très rares, et tout ce qui est implicite. En fait, c'est un livre qui joue beaucoup sur ce qui est implicite et donc sur la capacité, ou en fait, sur le désir de lecture et d'appropriation et d'interprétation du lecteur, qui est ouvert là-dessus, qui a absolument besoin de la participation du lecteur, peut-être plus qu'un œil en moins ou peut-être plus que les autres.
Dans ce qu'il y a d'explicite aussi dans ce livre, c'est les références qu'il y a dans la préface. Vous citez Michaud, Reznikov. C'était aussi important pour vous d'afficher ces références, de dire j'écris après cela et d'une certaine manière d'après cela.
Je voulais surtout pas que les lecteurs qui ont plutôt l'habitude de lire de la narration, des récits ou des romans pensent que j'avais inventé le fil à couper le beurre. C'est peut-être un peu ça. D'abord, je pensais à ça. Je me suis dit que, en fait, je n'ai pas du tout, j'ai jamais eu le sentiment d'appartenir à une quelconque avant-garde pionnière ou quoi que ce soit. Hein. Au contraire, j'ai toujours essayé de traverser différents genres, différents auteurs. Et puis, c'est plutôt justement le mélange ou les agencements ou les croisements qui sont à la fabrication plutôt que la volonté absolument de faire du neuf, quoi. Donc, d'une part, c'était ça. Et puis ensuite, oui, si cette forme est venue, c'est parce que je l'avais vue ailleurs, autrement, quoi, mais très proche de ça. Reznikov, qui est ce grand poète objectiviste américain, qui a fait ça, en particulier concernant des procès, hein, des procès verbaux de procès qui ont eu lieu aux États-Unis au début du XXe siècle, fin XIXe même, et puis après, concernant les procès liés à l'extermination des Juifs d'Europe. Et puis aussi des ouvrages un peu plus récents, celui de Haim Radbecker, qui est formidable en fait, ça a peut-être été le déclencheur vraiment pour ce livre-là. Il est sorti il y a un peu plus d'un an chez Hero Limite, des éditeurs suisses, et s'appelle Transcription. Et pareil, ça part de sources comme ça, très très diverses, concernant aussi la Shoah, aussi bien des textes de loi que des témoignages, Et il a organisé, il a agencé ces fragments-là sur plusieurs centaines de pages, et c'est extrêmement frappant, et en particulier concernant la bureaucratie et son rôle. Et puis Jacques-Henri Michaud, ça c'est un poète français qui a fait ça dans les années 90. Là, il s'attachait plutôt aux automatismes de langage, aux éléments de langage, comme on dit, qui courent dans les médias en général. Enfin, les phrases toutes faites, les expressions qu'on entend 8000 fois par jour et qu'on n'entend plus tellement on les entend. Et c'était une sorte de lexique et d'analyse de la langue qui était formidable. Et son livre s'appelait « Un ABC de la barbarie », le titre l'autre parle pour lui. Voilà, donc ça c'était les trois sources vraiment que je cite en référence parce que les trois sont importants et m'ont donné autant que l'idée, ils m'ont donné l'énergie pour démarrer ce type de livre-là que j'avais jamais fait ça auparavant, quoi.
Oui, c'est la première fois. C'était facile comme exercice.
C'était étonnant parce que c'est vraiment un exercice de poète, j'allais dire, alors que j'ai eu le sentiment pour la première fois, alors que souvent j'ai l'étiquette, ou je sais pas comment on peut dire ça, poète ou poète et écrivain, ou plutôt poète, parce que je viens de là, hein, j'ai commencé, et j'y suis toujours, d'ailleurs, plutôt dans les revues de poésie, voilà, des lectures de poésie et des choses comme ça, mais la plupart des livres qui sont sortis jusqu'à Les enfants vont bien sont plutôt des formes de mélange de récits, de voilà quoi, hein. Bon, c'est peut-être plus proche des fois du récit que vraiment de la poésie. Et là, je me suis dit, ah là, je suis à ma table, je coupe, je colle, enfin, via des moyens numériques, hein. Et pour la première fois, je fais ça de manière aussi systématique et longue, et c'était une autre forme de travail. Et c'était un drôle de travail. Ouais, c'était assez différent de ce que je fais d'habitude, ou quand même l'écriture, comme on dit, et là, quoi, en premier. Là, c'était tout un travail de d'abord de retranscription, comme on dit, c'est-à-dire de recopier, hein, de taper ce que j'entendais dans les discours des présidents de la République, ou de copier-coller des extraits de textes de loi ou des extraits de mails dans la boucle de laquelle j'étais. Et puis après, une fois que tout ça a été copié, collé, retranscrit, coupé, choisi, il a fallu, ça a été un travail assez long. J'avais déjà l'idée, hein, de faire une phrase, une page, hein, depuis le début, mais de choisir l'agencement, laquelle avant l'autre, ça c'est tout le travail, j'allais dire, du montage, que ce soit au cinéma ou dans la littérature, c'est pareil, hein. Qu'est-ce que je mets comme plan pour que celui qui vient après ait tel effet ou pas tel effet, ou voilà, bon, qu'est-ce qu'on met avant, qu'est-ce qu'on met après, c'est très proche du cinéma, ça. Et puis, le troisième moment, et ça a été un moment assez difficile, où en fait, j'ai demandé à des amis ce qu'ils en pensaient, ça a été tout le problème de la mise en page, des choix typographiques qui étaient capitales dans ce livre-là, bien plus que dans tous les autres réunis, je crois. Et parce qu'il fallait pas que ça fasse, ça c'est une remarque que m'a fait un ami, hein, Pierre Le Pilouère, qui était l'un des premiers lecteurs, qui m'a dit, c'est pas possible, on dirait une espèce de on comprend rien, tout se ressemble, ça va amalgamer, c'est pas du tout bien éthiquement ni politiquement, enfin bon, il m'a fait une critique assez dure et qui m'a vraiment remis la tête à l'endroit. Et donc à partir de cette critique-là, j'ai vraiment commencé à réfléchir sur la question de la mise en page, de la typographie, du corps, de la taille des caractères. Et au fur et à mesure, en travaillant aussi avec d'autres amis que je cite à la fin, Nicolas Marquet qui a l'habitude de la mise en page et tout ça, on en est venu, et avec Anthony chez POL qui s'occupe de la mise en page, on en est enfin venu, je vous passe toutes les étapes, hein, parce que ça a été vraiment important, au choix de la disposition voilà, des présidents, des discours, des hommes politiques tout en haut en grand corps, et puis en dessous les textes de loi en italique, et puis encore en dessous, on va en parler, je pense, les mails du centre d'accueil et d'orientation des réfugiés. Encore en dessous, quelques titres de la presse régionale. Et tout en bas et en tout petit, des extraits de mails de RESF. En clair, c'est ça. C'est le réseau Éducation sans frontières, qui est un réseau qui aide les familles de réfugiés avec des moyens très, très limités.
Je vous propose qu'on écoute une archive, la voix de Georges Didier Huberman, sur la question du montage, justement.
Un montage, c'est pas mettre une chose avec juste la chose qui lui ressemble absolument à côté. Ça, c'est ennuyeux. Non, non, ce qu'elle dit très bien, c'est mettre ensemble deux choses qui ne vont pas ensemble. C'est amusant, elle dit c'est surréaliste. Moi, j'ai consacré un petit texte à la fameuse expression de Lautréamont, beau comme la rencontre d'un parapluie et d'une machine à coudre, sur une table de dissection, qui est aussi une table de montage, hein, puisque disséquer, c'est séparer, c'est ce qu'on fait au cinéma, hein, on sépare les rushs, enfin, on séparait.
Par ailleurs, Les résidents ont du mal à se motiver seuls pour aller jouer au foot, mais si quelqu'un vient leur proposer et les stimuler, il trouvera sans doute suffisamment de volontaires pour faire une bonne partie.
Les procédures contentieuses sont également revues, notamment par la création d'une procédure de recours suspensif, procédure accélérée devant un juge unique de la CNDA en 5 semaines.
Nous allons continuer à travailler autour de thèmes hebdomadaires.
Un droit d'asile plus efficace, c'est être fidèle aux valeurs de la République et aux messages de la France.
Dans le cadre de leur travail quotidien, les travailleurs sociaux et éducateurs ont affiné les besoins des résidents et le planning a été repensé pour panacher français et possibilité de faire d'autres activités tout aussi importantes par rapport à l'équilibre que nos amis essaient de trouver ici.
Il s'agit en particulier de sécuriser le prononcé des décisions d'éloignement.
Personne n'est venu à la première séance.
Les nouvelles procédures de demande d'asile sont complexes. On n'interdit pas dans notre pays, on rend les choses inaccessibles. Le contact avec la préfecture est très difficile en ce moment. Pour faire une demande de dossier de régularisation, il faut appeler la préfecture qui nous passe le service adéquat. À deux reprises, le contact téléphonique a été violent. La première fois, c'était un demandeur d'asile qui a appelé, qui s'est entendu dire qu'il n'avait pas à faire cette demande, qu'il devait rentrer chez lui, etc.
Car comme tu le dis, ils viennent de façon un peu anarchique, pas toujours suivis.
C'est au cinquième du troisième, les mots « en France » sont remplacés par les mots « sur le territoire de la République ».
Parmi les 11 adultes qui sont partis, certains avaient déjà une procédure administrative lancée ailleurs, d'autres n'ont pas souhaité rester.
Nathalie Quintane, on vient d'entendre une lecture à plusieurs voix de votre livre « Les enfants vont bien » publié chez POL. Et juste avant, une archive, la voix de l'historien d'art Georges-Didier Huberman, qui parle du montage, c'est une archive en 2018. Et il parle de Lautréamont et de cette question de la table de dissection qui est aussi une table de montage. Et j'aimerais revenir avec vous sur cette idée d'opération poétique du montage et qu'il y a quelque chose qui se joue dans le montage pour la poésie.
Alors, la référence à Lautréamont, pour le coup, c'est l'une de mes principales références. Hein. C'est évident que si je suis là aujourd'hui, c'est en grande partie parce que j'ai lu Lautréamont et Ducasse quand j'étais au lycée, hein, quand j'avais 16-17 ans. Ce qui est frappant, hein, je veux bien revenir sur Lautréamont et en particulier même Ducasse, c'est-à-dire en fait Lautréamont, les Chants de Maldoror, c'est bon, il y a du montage, mais en même temps c'est pris dans une espèce de chant récit plus ou moins parodie de romantisme frénétique ou de bouts de Victor Hugo comme ça qui sont scratchés en plein dans une espèce de violence figurative insensée. Mais la véritable table de dissection, je dirais qu'elle est peut-être encore plus dans le deuxième et dernier livre de Lautréamont sous son vrai nom de Isidore Ducasse, qui sont les poésies. Alors là, on a une espèce d'opération en effet extrêmement cruelle sur les clichés de son époque, qui est en fait une série de phrases qui viennent de moralistes d'un peu partout, quoi, de trucs qui traînaient dans l'air et qu'il trafique complètement en fait, hein, il les remet pas, il les retranscrit pas tel quel du tout, hein, il en fait un peu ce qu'il veut, quand c'est affirmatif il le passe au négatif et puis il les juxtapose comme ça, il appelle ça poésie et c'est vraiment, voilà, pour le coup c'est une opération poétique avec un grand P au sens où c'est complètement critique et destructeur d'une certaine idée de la poésie, pas de la poésie, d'une certaine idée de la poésie qui est celle qu'on se fait en règle générale encore aujourd'hui. Alors pour le coup, je suis pas sûre que l'ambiance générale ait fondamentalement changé quand on dit poésie, quand on entend ce mot-là. De toute façon, je crois que c'était l'une des premières phrases que j'ai dites quand j'ai rencontré pour la première fois Paul Tchaïkovski-Laurence. Je me souviens très bien, je sais plus de quoi on parlait, mais c'était il y a maintenant assez longtemps, ça devait être en 97. Et je lui ai dit, de toute façon, tout est toujours à recommencer. On doit toujours tout recommencer. Alors, pas seulement en matière de poésie, mais en matière, par exemple, de politique. Et je crois qu'il a eu l'air assez d'accord. En tout cas, il a approuvé. Et d'une certaine manière, cette opération poétique de montage qui a l'air de naître avec toute la violence et toute la lisibilité nécessaire vers 1871, donc peu après la Commune de Paris, ou en tout cas, c'est presque simultané, c'est pas un hasard, je crois pas. Avec Isidore Ducasse, eh ben, cette opération-là, il faut la refaire. elle n'a pas été souvent faite au fond. Et d'où le caractère, c'est peut-être une chance aussi, d'où le caractère toujours un peu à naître ou fraîchement né ou frais qui peut jouer encore aujourd'hui, je crois. En fait, il y a un drôle de truc, et je pense à la poésie, mais je pense aussi à la situation politique, puisqu'on en parlait à l'ouverture, hein, au début de cette émission. Il y a une espèce de d'usure de tout. Enfin, on a une sorte de sentiment d'usure de tout, hein, des livres aussi, la littérature aussi, de un peu, voilà, bon. Et en même temps, moi, j'ai le sentiment que depuis quelques années, ça pousse, ça frémit pour que autre chose advienne, d'une force que je n'ai jamais sentie dans ma vie jusqu'à présent, et j'ai 55 ans. Hein. Donc, tout peut être absolument terrible, ça, tout le monde en est convaincu. Mais ce dont peut-être pas suffisamment de gens, peut-être en tout cas autour de moi, j'en sais rien, ou plus largement devraient être convaincus, c'est qu'il y a des choses qui sont enfin possibles, mais que bah voilà, il va falloir être un peu courageux. je dis ça pour moi aussi parce que c'est difficile quand on n'a pas eu l'habitude de ce courage-là, hein, y compris un courage physique. Et il y a une forme de courage, au fond, symbolique quand on écrit des livres, ou qu'on fait des films, ou qu'on travaille dans des milieux culturels, ou je sais pas quoi. Il y a un vrai courage à avoir aussi quand on a été dans un bain relativement confortable. Voilà, ça dépend des gens, hein. C'est un peu de se faire violence soi-même et de pas, même si ça, alors, doit nous nuire, j'en sais rien, peut-être pas, mais en tout cas, ça doit un peu nous freiner dans la reconnaissance, par exemple. Il y a des moments où il faut peut-être essayer d'arrêter de faire ce qu'on a l'habitude de faire pour marquer le coup et rendre compte de ce qui est en train de surgir et de se passer dans l'époque qui est là, oui, inhabituel, inédit, j'en sais rien, mais en tout cas inhabituel. C'est difficile quand on écrit depuis longtemps, enfin depuis voilà, ça fait plus de 20 ans ce qui me concerne, et l'enjeu pour moi, il est là. Il est pas de comment dire, de continuer, de faire un tome 3 ou un tome 4 ou un tome 2 d'un œil en moins, mais de comme à chaque fois ça change, à chaque fois c'est plus dur, plus violent, plus inédit, plus bizarre, plus etc. Bon, voilà, il faut essayer de saisir ça, de se saisir de ça, quoi.
C'est l'aventure de l'écriture qui est perpétuellement relancée. À chaque livre.
Ouais, mais particulièrement, ouais, elle est relancée, mais parce que le temps veut ça, l'époque veut ça, l'époque aussi n'arrête pas d'essayer de se relancer, sans cesse de se relancer vers quelque chose de beaucoup plus révolté. Je sais pas si je peux dire révolutionnaire. J'ai toujours des scrupules, mais je pense qu'il y en a plein qui le diraient. Et ouais, donc évidemment, on est là, tous on est là pour ça, quoi. Pour essayer de pousser avec ce qui se passe et pas d'essayer de faire perdurer une recette mille fois utilisée.
Poésie 2. Le génie garantit les facultés du cœur. L'homme n'est pas moins immortel que l'âme. Les grandes pensées viennent de la raison. La fraternité n'est pas un mythe. Les enfants qui naissent ne connaissent rien de la vie, pas même la grandeur. Dans le malheur, les amis augmentent. Vous qui entrez, laissez tout désespoir. Bonté, ton nom est homme. C'est ici que demeure la sagesse des nations. Chaque fois que j'ai lu Shakespeare, il m'a semblé que je déchiquette la cervelle d'un jaguar. J'écrirai mes pensées avec ordre, par un dessin sans confusion. Si elles sont justes, la première venue sera la conséquence des autres. C'est le véritable ordre. Il marque mon objet par le désordre calligraphique. Je ferais trop de déshonneur à mon sujet si je ne le traitais pas avec ordre. Je veux montrer qu'il en est capable. Je n'accepte pas le mal. L'homme est parfait. L'âme ne tombe pas. Le progrès existe. Le bien est irréductible. Les antéchrists, les anges accusateurs, les peines éternelles, les religions sont le produit du doute. Dante, Milton décrivant hypothétiquement les landes infernales, ont prouvé que c'était des hyènes de première espèce. La preuve est excellente. Le résultat est mauvais. Leurs ouvrages ne s'achètent pas. L'homme est un chêne. La nature n'en compte pas de plus robuste. Il ne faut pas que l'univers s'arme pour le défendre. Une goutte d'eau ne suffit pas à sa préservation. Même quand l'univers le défendrait, il ne serait pas plus déshonoré que ce qui ne le préserve pas. L'homme sait que son règne n'a pas de mort, que l'univers possède un commencement. L'univers ne sait rien. C'est tout au plus un roseau pensant.
Vous parliez de Lautréamont et aussi de sa manière de parodier un certain nombre d'éléments de langage, on peut utiliser cette expression, de son temps. Qu'est-ce qui vous a frappé, vous, en termes vraiment du langage, dans tout le matériau que vous avez brassé pour Les enfants vont bien ?
Ah, alors, très vite, en fait, ça n'a pas été, par exemple, les phrases des ministres de l'Intérieur et des présidents de la République hein, que j'ai retranscrit. Ça m'a pas vraiment surprise. Ce qui m'a un peu arrêté concernant ces phrases-là, c'est la récurrence incroyable du mot fermeté. Depuis, j'ai retranscrit ces phrases sur 3-4 ans, donc du gouvernement Hollande jusqu'à Macron. Et c'est incroyable, quoi. On a l'impression qu'ils n'ont que ça à la bouche. Bon, ça c'était un peu surprenant, mais pas trop. Non, ce qui m'a le plus arrêté, c'est le centre d'accueil et d'orientation. Ça, c'est vraiment fascinant parce que je crois que c'est un concentré des injonctions contradictoires et des apories dans laquelle on est tous. C'est-à-dire que c'est une association, on va dire, qui a délégation de l'État pour accueillir les réfugiés. À l'époque, les réfugiés qui venaient du démantèlement de la dite jungle de Calais. Donc, ils sont dans un bâtiment, voilà, ils accueillent les réfugiés en attente de régularisation qui n'arrive pas, bien entendu, dans la plupart des cas. Donc, ils savent très bien qu'au bout du compte, et c'est ce qui va se passer, il va y avoir des expulsions. Ils sont là pour les garder au chaud en attendant l'expulsion. En clair, c'est un peu ça. Puis en attendant, ils appellent des bénévoles pour faire passer le temps, que ce soit un peu moins désagréable et qu'il y ait un semblant d'accueil.
Et dans c'est le texte qu'on entendait sur les parties de foot, oui.
Voilà, c'est ça, les parties de foot. Et en fait, quand on regarde cette partie, qui est une partie de la partie centrale hein, dans le livre, c'est que ça passe du côté sympa qu'on a entendu avec les parties de foot, hein, même le côté un peu plein d'émotions et de sentiments. Ah, enfin, ils sont là, on les a attendus. Voilà. Ça passe de ça, d'un truc un peu, voilà, un peu avec des sentiments, un peu, voilà, sympa, quoi. Enfin, chaleureux même, hein, voire. À des trucs hyper techniques du genre bon alors faut cadrer tout ça les gars hein, il faut un calendrier, il faut alors on sent là l'administration l'institution classique qui veut que ça déborde pas, donc qui fixe des horaires, qui essaye de cadrer les bénévoles, alors non là va falloir quand même falloir faire les choses un peu dans les règles. À troisième étape, un truc un peu plus dur, un peu plus raide. Si jamais il y a justement des choses qui se passent pas très bien, ou à un moment, vers la fin, il y a un bénévole qui a envie de faire un peu plus, de les aider pour les papiers ou je sais pas quoi, hop là, surtout pas. Ça, c'est notre taf. Nous, on fait l'administratif et vous mettez pas votre nez là-dedans, s'il vous plaît. Même pas la Ligue des droits de l'homme, surtout pas la Ligue des droits de l'homme. Donc ça passe comme ça, du côté très sympa à un côté beaucoup moins sympa. Un peu, bon, voilà, hein. Ça flique un peu, quoi. C'est là pour ça. Et ces glissements progressifs vers des choses plus dures ou moins dures, ces allers-retours entre qui m'ont particulièrement intéressée. Oui, ouais. Parce que il y a aucune cohérence en fait. C'est assez perturbant en fait. C'est très ambigu, très perturbant. Ouais.
On laisse s'installer quelques personnes, puis on se laisse déborder par des milliers. Il y a les sans-papiers et les Roms. J'ai mon quota.
Nous remercions les autorités pour leur volonté de coopération et le maintien d'un dialogue. Nous remercions vivement la quinzaine de personnes qui s'est mobilisée aujourd'hui pour soutenir cette famille, ainsi que les 400 personnes qui ont spontanément signé la pétition mise en place par le comité de soutien qui s'est créé mardi dernier à l'école. Et nous souhaitons vivement que cette famille, suite à cet élan, trouve ainsi les forces pour s'intégrer au mieux avec nous et que demain nous puissions les citer en référence.
Au bout d'un moment, ça suffit.
Fermement attaché à une politique européenne commune des migrations.
Pendu avec un drap, et la justice avait conclu que personne n'était entré dans la cellule, selon les caméras de surveillance.
Troisième, après le mot « grave », la fin de la première phrase de l'article L713-3 est ainsi rédigée « Si elle peut, légalement et en toute sécurité, se rendre vers cette partie du territoire, et si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle s'y établisse. »
1. Demande de rendez-vous rapidement chez le préfet. Madame la maire de C est favorable à cette démarche et se propose de demander un rendez-vous avant d'en arriver au stade de la manifestation. Donc, un portage par les élus locaux me paraît une bonne chose. 2. En parallèle, pression par courrier de tous les bénévoles et sympathisants envers le préfet et saisine des autres parlementaires.
Mais si demain quelqu'un écrit « C'est beau, dommage qu'il y ait un camp de migrants à côté », vous pensez que les gens vont continuer à venir ? Moi, je ne crois pas.
3. Aide de toutes les associations militantes, Ligue des droits de l'homme, RESF, etc.
Migrants percutés, une personne en garde à vue.
4. La saisine de tous les médias, page Facebook, etc.
In a tunnel, there is nowhere to escape.
5. Et enfin une manifestation avec le plus de monde possible. Si cela n'évolue pas, cela permettra d'organiser une manifestation d'importance.
Les cheminots craquent. Sur les pas des migrants, dans la neige, par moins 14 degrés.
Ce que votre livre construit aussi, c'est, même si les dates ont l'air éclatées, on a un peu du mal à se repérer temporellement, c'est une forme finalement, enfin la chronologie qui est la chronologie du lecteur. On sent oui, vraiment ce ton qui passe de quelque chose de débonnaire, vous le dites dans la préface, à une forme de plus en plus violente. Est-ce que vous avez pensé cet arc-là ?
Alors d'abord, je ne l'ai pas pensé moi au sens où dans la boucle même de ces mails, et y compris dans la boucle des mails du réseau Éducation sans frontières, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que au début, c'était plutôt, ça allait encore, la situation n'était pas trop grave. Et puis il y a ce début un peu enthousiaste de l'accueil des réfugiés. On sait qu'ils ont traversé des choses terrible et à leur arrivée au centre d'accueil qui est un centre d'accueil qui est pas très loin de chez moi, il y avait il y avait des dizaines de bénévoles qui étaient enthousiastes et réellement chaleureux et réellement généreux. Donc ça part comme ça sur quelque chose qui est plutôt positif, hein. C'est la première phrase. Coucou, j'ai installé une carte du monde sur le mur d'une des deux salles où chacun a pu mettre une étiquette autocollante à son nom et reliée à son pays, voire sa ville d'origine. Donc il y a le côté méga ouverture, on va être bien ensemble, voilà. Et puis peu à peu, évidemment, la situation se durcit sur un an, hein. En fait, ça couvre un an, ça, pratiquement. Et on sent que ça devient de plus en plus compliqué, que les bénévoles, il y en a qui partent parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent en réalité rien faire de très important pour eux, qui sont là presque un peu comme caution, quoi. Caution de l'accueil, avec 1000 guillemets. Donc il y en a qui restent, puis il y en a qui partent. Donc déjà, ça commence à... Et puis on comprend de manière implicite qu'il y a des réfugiés en fait qui ont compris qu'ils allaient être expulsés, donc ils partent, ils quittent le centre, c'est pas ce qu'ils sont devenus. Hein. On est en pleine campagne, très loin de, assez loin de tout quoi. Donc ils sont partis par les routes, souvent en hiver, en plein hiver, dans les basses Alpes, donc la météo est pas forcément fameuse. Enfin on sent comme ça que les choses arrivent, que ça devient plus compliqué. Et puis à la fin, c'est ce qui s'est passé. J'ai repris, alors j'ai peut-être mis en valeur ça, cette espèce de d'évolution chronologique du plus vers quelque chose de beaucoup plus noir, quoi. En tout cas, ouais. Et à la fin, on les met dans un hôtel pas très loin de l'aéroport, et puis les derniers bénévoles de l'époque commencent à lâcher, quoi. Et parallèlement, le réseau Éducation sans frontières, qui accueille surtout des familles, des enfants, etc., fait état progressivement de mesures de la préfecture de plus en plus dures. Donc c'est ce qui s'est passé, la chronologie, elle reflète assez bien la chronologie réelle, on va dire, enfin ce qui s'est passé pour de vrai. Et en même temps, les choix que j'ai faits, en particulier évidemment la manière dont ça commence, que j'ai lu tout à l'heure, et la manière dont ça se termine, ça, voilà, ça met en avant ça, ça donne une espèce de... Au fond, c'est un récit troué, mais il y a réellement une forme d'histoire, quoi. Hein, une histoire avec des lacunes, des creux, des... Comme toutes ces histoires sont trouées, frôlent l'abîme tout le temps, quoi. À la lecture, on discerne une terrible histoire avec son début, son milieu, et puis une fin qui est pas une fin, mais bon, qui est pas fameuse, quoi.
Dans tous les niveaux de langue que vous déployez donc sur la page, que ce soit en haut les politiques, au milieu les associations, un peu plus en haut le droit et les réseaux d'aide tout en bas, je me suis dit à un moment que c'était des langages qui pour la plupart, on peut penser au droit, on peut penser les réseaux d'aide, donc c'est des communications entre eux, c'est des paroles qui sont efficaces ou en tout cas qui organisent des choses dans le réel. Le droit a un impact, on a entendu tout à l'heure l'idée que le mot France est remplacé par territoire de la République, et que au milieu de tous ces langages-là, il y avait deux types de langages, qui est celui des politiques et celui de la presse, où je me suis demandé, j'ai l'impression que ça c'est de la langue qui fait rien. Est-ce que j'ai tort?
C'est de la langue qui patine en tout cas.
Voilà.
Qui fait rien, je suis pas sûre. C'est une langue qui patine, puisque de toute façon, franchement, les bouts de discours, par exemple, des politiques sont totalement interchangeables. Hein. Alors que vous ayez quelqu'un de demi-gauche, demi-droite, je sais pas quoi, ou sans rien du comme étiquette politique, ça n'a aucune espèce d'importance, ils disent la même chose. Donc ça patine, hein. Mais ça fait pas rien, malheureusement, si seulement ça pouvait faire rien. Mais malheureusement, d'être baigné là-dedans, parce qu'on est baigné dans ce type de discours, qu'on le veuille ou non, on finit par en être imprégné, hein, et ça donne une espèce de d'habitude, d'ordinarité de la langue qui fait que on entend tout le temps, il faut être ferme mais gentil ou mais je sais pas quoi, hein, en fait ça c'est une balance entre les deux là, et moi je pense que ça a réellement un impact, et je me demande même si c'est pas là que l'impact, parce que l'impact le plus terrible, au fond. Parce que justement, c'est une espèce de flux bouillie, sans structure, sans qui baigne ça. On a l'impression que c'est de toute éternité qu'on nous a raconté des trucs pareils. On voit plus le début de ce type de discours sur les réfugiés, quoi. On n'en voit pas la fin non plus, du coup. Mais faut vraiment s'en méfier. C'est un discours assez terrible, quoi. Parce que il devient une évidence, il devient naturel, il est naturalisé. Voilà. Ce qu'on en retient, c'est qu'il faut être ferme. Et on sait ce qu'il y a derrière ce type d'adjectif.
Oui, mais par rapport au droit, où là, il y a des choses qui sont transformées effectivement par le langage, je pense aussi à tout le processus qui apparaît. Il y a une espèce de dramaturgie dans le texte, d'apparition de termes comme éloignement, je disais république tout à l'heure, irrégulière... C'est aussi des mots, enfin des créations de mots qui apparaissent et qui sont apparus, ouais, sur la scène publique et la scène politique aussi.
Moi, je trouve ça dramatique, pour le coup, c'est le cas de le discours du droit là. C'est alors je sais bien que c'est technique et que voilà, c'est là-dessus que se basent les tribunaux, etc., pour expulser ou pas, et encore. Il y a des tout ça se négocie, tout ça se bon. C'est pas le droit, il est pas respecté au pied de la lettre, loin de là. Moi, j'ai été désolée par en fait ces formulations pleines d'euphémisation. Là, la France, on est à la place, on dit le territoire de la République, puis à la place, on change un alinéa, on change un pauvre chiffre, personne ne comprend. À part évidemment les spécialistes, à quoi c'est. Ça, c'est je noie le poisson. Une figure de style un peu dramatique en l'occurrence, mais pour mieux expulser. Moi, le sentiment que j'ai eu en épluchant un petit peu tout les derniers décrets, tout ça, c'est ouais, tout ça de toute façon, c'est juste fait pour expulser. C'est tout. Pour expulser plus facilement. Pour délivrer des OQTF plus facilement. C'est tout.
Et votre texte là-dedans, en mettant très très gros par exemple la parole politique, et en mettant aussi, en sélectionnant et en coupant des passages choisis, ça le fait apparaître comme ridicule. Je pense à des passages, oui. On a pensé à des sanitaires mobiles.
Oh ouais, non mais ça c'est magnifique.
Est-ce que c'est une des opérations que vous vouliez conduire aussi? C'est-à-dire de tourner en ridicule cette parole-là avec ce texte-là, qui est un geste fort.
C'est eux-mêmes qui se tournent en ridicule, mais ils ne s'en rendent pas compte, c'est ça qui est génial. Ou en tout cas, ils s'en rendent partiellement compte. Je crois que c'est l'un des leviers possibles qu'il ne faut surtout pas lâcher. Et je crois d'ailleurs que les manifestants ont compris depuis longtemps qu'il ne fallait pas le lâcher. Ou les gens qui font circuler des informations sur les réseaux sociaux, il y a toute une partie très parodique, et très, même le Gorafi à la limite, hein, qui tourne ça. Enfin, c'est même pas tourner en ridicule, c'est juste révéler ce qu'il y a déjà ridicule dans ce type de parole ou dans ce type d'acte. Oh bah allez, je vais laisser tomber ma retraite. Enfin bon, mais immédiatement, on comprend que c'est une erreur politique incroyable, quoi. Mais qui conseille ce garçon? Je dis ce garçon parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi. Pour qu'il d'un coup lui pète l'idée, ou quelqu'un a dû, je sais pas, en se levant, ah bah oui, on va faire ça pour montrer qu'on a compris le malheur des gens. Oh, je vais lâcher ma retraite. Mais tout le monde sait que c'est pas avec ça qu'il va vivre. Et qu'il aura aucun problème pour sa retraite, ce monsieur-là qui est à la tête de l'État. Vous voyez, en fait, le ridicule, il a même pas à être révélé. Il est là déjà. Alors bon, on dégage un peu ce qui l'entoure et ce qui peut le border éventuellement, et encore de moins en moins, je trouve. Et puis hop, il s'affiche tel qu'il est, tel quel. Et ça, je crois que c'est vous savez, on parle du... Bon, bah, évidemment, ça m'intéresse, puisque l'humour et l'ironie, la parodie m'ont toujours intéressé, mais tous ces tacs, toutes ces phrases, tous ces jeux dans les manifestations depuis quelques années autour de l'humour, justement, et de la parodie, du carnaval et des choses comme ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer à tenir, parce que je pense que c'est très efficace. Alors pour le coup, c'est vraiment efficace. Par les temps qui courent, France Culture, Romain Lebec de Lièvre, Nathalie Quintane.
Et vous pensez quoi, la vigilance des écrivains sur la question du langage et de son évolution, mais que ce soit vraiment dans des sphères très très hautes et aussi dans des sphères plus directes et plus quotidiennes, c'est une des tâches importantes.
C'est là, c'est le travail, je crois. Il y a un livre, je crois que je le cite pas dans les sources, mais pourtant il est bien là. C'est le livre de Klemperer sur la langue du Troisième Reich. Donc en deux mots, hein, c'est ce linguiste.
J'ai pensé en le lisant.
Moi, il est tout le temps dans ma tête, hein, tout le temps. Mais je veux dire pas simplement pour ce livre-là. C'est-à-dire que réduit juste à ces éléments de langage, comme on dirait aujourd'hui, du Reich, quoi, des nazis en clair, quoi, parce qu'ils pouvaient plus accéder à rien d'autre. Ils pouvaient plus aller dans les bibliothèques, pouvaient plus travailler, pouvaient plus. Donc, ils se saisissaient de tel tract, tel article de journal. Et il a fait son travail de linguiste sur cette langue-là, qui était écrite et parlée sous le Troisième Reich en Allemagne. Et je crois, oui, que c'est vraiment. Mais alors, c'est pas simplement. Évidemment que c'est le dans les périodes difficiles, voilà, les périodes un peu instables, les périodes un peu bizarres, telles que celles que nous sommes en train de traverser. Je crois que c'est le travail des écrivains, c'est l'une des tâches principales des gens qui écrivent, ça c'est clair, ou qui ont affaire au langage, théâtre, tout ce que vous voulez, quoi, cinéma. Mais moi, il me semble que en fait, et c'est l'idée du livre, hein, les enfants vont bien, c'est le travail de tout le monde. C'est pour ça que je citais les manifs, les tags, les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Le travail, alors il n'est pas fait comme celui d'un écrivain qui a un livre au bout, ou quelque chose comme ça, ou une œuvre, hein, ou une pièce, ou je sais pas quoi. Mais il est fait de manière assez sérieuse, je trouve, par le biais de ces moyens de communication. Au sens où ce que je vois défiler sur Twitter, les personnes auxquelles je me suis abonnée, sont quand même très attaché à analyser ce langage, à mettre en avant les choses qui paraissent énormes, violentes, ridicules, etc. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose dont il y a beaucoup de gens qui se sont emparés, qui sont en train de s'en emparer. Et je crois que ce travail-là des écrivains, il est d'autant plus, on est d'autant plus porté qu'on sent qu'on n'est pas tout seul à le faire. Moi, je sens que je suis pas toute. Il n'y a pas que les écrivains qui font ça. Et il y a plein de personnes. Et c'est super important parce que tout ça se diffuse dans la société française. Et c'est ça aussi, hein, avec les actions et tout ça, qui porte la société française vers quelque chose qui permet de se lever le matin, de se regarder dans la glace et d'avoir un minimum d'énergie et d'enthousiasme pour y aller, même si ça paraît très difficile.
Et est-ce que ça contribuerait tout ça aussi à l'idée d'une disparition de l'auteur ? Pour les gens qui suivent un peu votre travail, ils savent que la question de l'auteur et de vous en tant qu'auteur n'est pas si importante que ça. Et notamment dans ce texte-là, enfin, défaire en tout cas la figure de l'écrivain.
Ouais, ça je sais pas, je m'en fous un peu, j'allais dire. C'est un peu la question, clé de la fin des années 60, les années 70, hein, parce qu'il y avait ce, je crois que c'est en partie, ce moment est intéressant, hein, en 68 ou un peu avant 68, je sais plus, où Blanchot a déclaré a dit non. C'est le refus intégral de 68, ça se formule comme ça, hein, je crois. Non. Donc, y compris non à l'auteur et à la figure de l'auteur et à tout ce qu'on, à la figure d'auctorialité et d'autorité, tout ce qui va avec, hein. J'allais dire que, ouais, cette position-là radicale, c'est encore une position en interne, quoi, si vous voulez. C'est un peu les auteurs qui se disent entre eux, ah bah non, moi c'est non, et puis toi c'est quoi, c'est demi-non, et toi c'est en même temps, et toi c'est, oh bah oui quand même. Donc en réalité, c'est pas ça qui j'ai pas envie de passer mon temps sur des soucis comme ça, de est-ce que je suis un auteur, est-ce que je suis un écrivain, est-ce que je... quand on me pose la question, parce qu'on me la pose encore, et franchement, mais je comprends, mais en même temps, ce que je réponds depuis très longtemps, c'est bof, ça dépend dans où je suis, ça dépend qui me pose la question. Voilà. Par exemple, est-ce que vous êtes poète? Si c'est quelqu'un qui me demande ça, qui est lui-même poète et qui se sent poète avec un grand P, donc je lui dis, ah ouais, je suis poète autant que toi, qu'est-ce que tu crois? Juste pour l'emmerder, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est plutôt des réponses comme ça, ce sont des réponses ad hoc. Voilà, en fonction de la situation, en fonction de la personne qui me répond. Donc moi, je vous réponds ouais, bah pourquoi pas, on peut y réfléchir comme ça, mais c'est pas une question capitale.
Mais en tout cas, dans le geste d'opérer du montage, il y a la fonction écriture qui disparaît.
La fonction écriture, mais pas forcément la fonction auteur, vous voyez. Je sais pas, ou alors l'auteur devient quelqu'un qui agence. Moi, j'ai pas le sentiment d'avoir changé de m'être déshabillé.
Avec ce livre-là, non.
Ouais, non. Non, et puis ce qui m'intéressait, franchement, hein, c'est de faire un livre, j'allais dire, assez violent, quoi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était ça. C'était pas de savoir si j'étais auteur ou pas, ça. Bon, peu importe. Mais c'est de faire un livre qui vraiment, j'allais dire, rendait justice à la violence de la situation. Formellement. Avec une forme à la hauteur assez violente pour rendre compte de la violence de la situation. Ça, c'était le centre du livre, la question clé et le moteur de sa fabrication. Les questions internes aux études de lettres, bon, si vous m'en posez, ça va, j'ai fait des études. Vous voyez, c'est ce que je dis, s'il y a des universitaires, je ne sais pas, moi, il n'y a pas de problème, on peut en parler, mais bon, ça va, il y a d'autres choses dans la vie, quoi.
Est-ce que pour revenir sur cette violence, il y avait l'idée de, en tant que lecteur, dans la position où on est, et on voit donc tous les blancs dont on a parlé sur ces pages, et toute cette violence qui est notamment implicite, ça nous renvoie très très exactement à notre situation de citoyen. Et face à une violence qui est souvent éloignée, masquée, la violence, je parle de celle qui est faite aux populations réfugiées, et devant, oui, qui est effectivement occultée. Est-ce que c'était cet effet-là que vous aviez eu envie de produire aussi d'une certaine manière sur le lecteur?
Ouais, bah c'est cut, c'est coupé.
Oui, dans geste de coupure qui lui aussi est violent.
Oui, ouais, oui. Ouais, je sais pas si ça marche à fond, mais oui, je voulais ça. Je voulais que cut soit pris au sens littéral du terme. Je pense que la poésie, quand ça marche, quand c'est opératoire, c'est quand on perd l'idée de métaphore et de figure et de, vous voyez ce que je veux dire, la distance de la métaphore pour que l'opération soit comprise au sens littéral du terme. Cut au sens de couper, comme on se coupe un doigt avec un couteau ou un rasoir. C'est pas, évidemment, vous allez me dire, ouais, c'est jamais qu'un livre, donc ça fera pas ça. Mais c'est l'horizon, d'une certaine manière. C'est l'horizon de ça. C'est pas de travailler la distance dans la langue pour laisser quelque chose d'ouvert ou de, enfin bon, bref, dans une forme de d'habitude poétique, on va dire. C'est vraiment tenter de littérariser, premier degréiser les choses. Et je crois vraiment, alors ça j'en suis de plus en plus persuadée parce que ces dernières années je suis un peu revenue vers des textes, j'ai essayé de comprendre, de relire Nerval, des poètes comme ça. Hein, et plus je lis ces poètes-là, ou d'autres poètes, plus je me dis, mais en fait, tout ce qu'ils ont dit, il faut le prendre au pied de la lettre. Quand Rimbaud dit « changer la vie », c'est un exemple que je reprends tout le temps, bon, je suis désolée pour ceux qui l'ont entendu 8000 fois, faut le prendre au pied de la lettre. C'est pas changer sa vie en changeant de copain, c'est changer la vie, c'est-à-dire que à l'époque, c'était faire la révolution. C'était l'époque de la commune aussi. Hein. Quand Nerval dit que, vous savez, tout ce truc où il s'intéresse de très près aux religions de l'Antiquité, à Osiris et tout ça, oui. C'est pas simplement parce que ça l'intéresse intellectuellement ou je sais pas quoi. C'est qu'il veut ça. Il veut l'arrivée, le retour de ces religions-là et plus du christianisme tel qu'on le connaît. Pour de vrai. Je suis vraiment de plus en plus persuadée que c'est pour de vrai. Que la poésie, elle doit être prise et elle a un effet pour de vrai. En tout cas, que ceux qui la fabriquent, qui la font, le font pour qu'il y ait quelque chose pour de vrai.
Une des toutes dernières phrases qui est citée. La surcharge de travail nous empêchant d'accompagner et prendre soin de nos gars comme nous le souhaiterions, nous passons le flambeau. Je me suis demandé si elle avait été choisie au hasard. L'idée de passer le flambeau conclure ce livre-là.
Ah. C'est à la fois une phrase terrible. Parce que c'est à la fin, donc on comprend que en fait ils vont se faire expulser. Ils vont aller dans des hôtels miteux là, et puis après monter dans l'avion si rien ne l'empêche. parce qu'il y a des gens qui l'empêchent des fois, le départ de l'avion. Donc c'est ça, et puis là, oui, c'est suffisamment ouvert pour que, de toute façon, un livre n'arrête rien, quoi. Heureusement. le livre, il est ouvert de tous les côtés. Voilà. Il est comme une maison sans mur. Et quand on le lit, l'idée c'est de le continuer, en fait. De le continuer dans la vie. Pour reprendre l'idée de pour de vrai de tout à l'heure. En fait, ça marche pour moi, hein, si ça continue dans la vie. Comme quand on va au cinéma, quand il y a un film qui nous a vraiment marqué, chamboulé, on sort de la salle, on arrive dans la rue, et le film est encore là. Il n'y a pas de frontières ou de limites ou du fait de la fin du film. Pour les livres, c'est la même chose. La fin du livre n'est pas une fin.
Super. Bah, la fin de l'émission ne sera pas une fin, du coup.
Voilà.
Merci Nathalie Quintane. Les enfants vont bien. Votre dernier livre est publié aux éditions POL. Ce soir au son, c'était Jean-Michel Bernaud. Merci à France Bleu Aix-en-Provence. David Travailleur était à la réalisation. Par les temps qui courent, c'est Lucie Riandet, Luque Vauvillet et Valentin Rémy. Pour réécouter l'émission, rendez-vous sur la page de Par les temps qui courent sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast. Tout de suite, le journal. But she had no past. When they shut her down, the Russians moved in. Now, I'm too scared. I'm too scared to even walk on past. She used to say, all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they preach. Yeah, they ought to practice just what they preach, those good people on Jubilee Street. And here I come up the hill, I'm pushing my wheel of love. I got love in my tummy and a tiny little pain, and a 10-ton catastrophe on a 60-pound chain. And I'm pushing my wheel of love. Streets are looking at me now.